Madame Julien, avec quelle musique allez-vous aujourd'hui illustrer l'instauration de la République protestante?
Mais j'ai pensé qu'il serait intéressant d'entendre des psaumes et des chorales. Nous écouterons donc un psaume et deux chorales. Ce ne sont pas des chants du XVIe siècle. Ce sont des chants de l'Église protestante contemporaine, mais je pense que les premiers religionnaires n'auraient pas désapprouvé ces chants.
Monsieur Julien, la semaine dernière, vous nous avez expliqué que la réforme protestante était une théorie qui se répandait assez rapidement dans la population saint-antoninoise, en créant de nombreux affrontements entre les adeptes des deux religions.
Oui, et comme nous avons essayé de le montrer dans la précédente émission, les tentatives d'implantation officielle du protestantisme dans notre ville, je dis bien officielle, puisque déjà il existait sous forme qui peut cacher. Et les tentatives d'implantation officielle du protestantisme dans notre ville dès l'année 1560 se sont soldées par un échec. Et cela, malgré l'aide apportée militairement par les protestants de Montauban. Tout au long de l'année 1561, on verra s'affronter à Saint-Antonin les tenants de l'une et de l'autre religion. On verra, je l'ai dit, se développer un climat de suspicion et de haine féroce. Les catholiques, en définitive, resteront maîtres de la ville grâce à l'appui extérieur des seigneurs de Saint-Michel, de Cornusson, de Valzergues et de Vezin. Alors une véritable chasse aux sorcières va s'engager ici, contre les meneurs protestants, ou du moins contre ceux que l'on désigne comme tels. Ils seront chassés de la ville et leurs biens séquestrés. À l'élection consulaire du 31 octobre 1561, les catholiques fanatiques triomphent. Ils occupent tous les postes de consul et seront exclus de tous les postes de responsabilité ceux soupçonnés d'être des séditieux et d'avoir participé de près ou de loin aux troubles et émotions qui ont marqué cette année 1561. On refusera même plus tard d'obéir à l'ordonnance du sénéchal qui avait prescrit en août 1561 de laisser les Huguenots, le mot voyez est ancien, les Huguenots exilés rentrer dans leur ville et dans leurs biens. Et trois délibérations successives du conseil de ville ne parviendront pas à régler cette question. Autrement dit, quiconque est protestant ou soupçonné de l'être n'a pas droit de cité à Saint-Antonin en 1561.
Monsieur Julien, vous nous disiez que le sénéchal était intervenu. dans ces affrontements entre catholiques et protestants. C'est donc que ce conflit commence à préoccuper plus que les autorités locales.
Il préoccupe depuis longtemps déjà le pouvoir central, c'est-à-dire le roi. Et cette ordonnance du sénéchal n'est pas due à l'initiative du sénéchal. Le sénéchal, ce n'est qu'un fonctionnaire royal qui transmet les ordres du roi. Ordre qui était, à ce moment-là, en ce début de l'année 1562, d'essayer de pacifier le pays. Et cet édit du roi avait été pris à l'initiative d'un homme respectable que tout le monde connaît, Michel de l'Hôpital. Mais c'est vrai que la querelle religieuse, maintenant, n'est plus une affaire locale. Elle concerne tout le pays, le conflit se généralise. Et partout en France, dans tous les milieux sociaux, le fait de la religion devient source de division, de haine et de combats, qui ne vont pas s'arrêter ainsi. Le massacre des protestants à Vassy, le 1er mars 1562, déclenche cette guerre civile qui, sous le nom de guerre de religion, va désoler le pays jusqu'en 1598. 1598, plus de 30 ans. Chacun désormais doit choisir son camp, je dis bien « doit », avec l'aide trop souvent brutale des grands chefs de guerre, qui sont Montluc, pour les catholiques, le terrible Montluc, et Duras, pour ceux de la nouvelle religion. Duras, moins connu que son chef, le baron des Adrets. Mais pour nous, c'est Duras qui est intervenu. Dès le 5 avril 1562, Montluc et son adjoint Bury, après être passés à Caylus, où un huguenot est pendu, vont soumettre Villefranche, où les protestants sont nombreux. De dures représailles sont exercées contre ces protestants, dont beaucoup seront obligés de fuir et d'aller chercher ailleurs refuge. Le 19 avril, 15 jours après, Montluc et Bury et leurs troupes sont de passage à Saint-Antonin, où ils s'arrêtent en quartier avant de se rendre à Montauban. Ils n'exercent aucune représaille contre les Saint-Antoninois qui sont encore considérés comme de bons sujets du roi. Peu après leur départ, les protestants de Saint-Antonin, aidés par leurs coreligionnaires venus de Villefranche et qui sont commandés par Raymond Gauthier, sieur de Savignac, les huguenots protestants deviennent maîtres de la ville au début de mai 1562. On ne connaît pas exactement le jour. La documentation qui m'a servi de base pour cette chronique, je l'ai extraite du registre de délibération des consuls. Or, pour cette période de mai 62, nous constatons une curieuse lacune. Entre le 25 mars 1562, date d'une délibération du Conseil de ville, et le 8 novembre 1562, où ne figure aucune réunion du Conseil, aucune délibération, comme si brutalement la vie municipale avait cessé son cours pendant 8 mois. Et pourtant, les documents étrangers prouvent que le printemps et l'été 1562 ont été particulièrement chauds à Saint-Antonin. Les amis protestants venus de Villefranche n'ont pas manqué, vous le comprenez, de raconter à nos compatriotes la terreur exercée contre eux par Montluc. On imagine sans peine quelle a été la réaction des Saint-Antoninois protestants, qui depuis plus d'un an étaient l'objet de vexations et d'une haineuse ségrégation de la part des catholiques, ou plutôt, comme on disait alors, des papistes. On comprendra donc sans les excuser, sans doute, les représailles qu'ils vont à leur tour exercer. Le peuple exaspéré envahit les églises qui sont dépouillées de leurs ornements, de leurs vases précieux, de leurs croix, de leurs reliques. Les couvents des Carmes et des Cordeliers, le monastère de l'ancienne abbaye, seront incendiés et en partie seulement, il faut bien dire, ruinés par la foule révoltée, exaspérée, démente. C'est le sauve-qui-peut parmi les ecclésiastiques, parmi les catholiques en vue, et notamment les consuls en place, qui quittent la ville ou en sont honteusement expulsés. Évidemment, nulle mention n'est faite officiellement dans le registre des délibérations de ces tristes événements. Voilà pourquoi il y a cette longue lacune. De toute façon, il n'y a plus de pouvoir local, puisque les consuls ou la plupart d'entre eux ont fui. C'est l'autorité militaire, le sieur de Savignac, qui commande. Autorité impuissante, évidemment, à empêcher le pillage, l'incendie et peut-être les meurtres. Dont certains historiens, comme Moulenc et d'autres, ont, à mon sens, grossi l'importance et le nombre. Il est clair qu'en cette affaire, selon que l'on est catholique, historien catholique ou historien protestant, on a une vue différente des choses et que l'objectivité en souffre. Quoi qu'il en soit, dès le mois de mai 1562, Saint-Antonin est passé, cela nous en sommes sûrs, entièrement dans le camp protestant. L'évangile de Dieu sera désormais purement et sincèrement prêché, comme on disait, dans l'église Saint-Michel, devenue temple.
Monsieur Julien, où était située cette église Saint-Michel que les protestants ont transformée en temple ?
Oui, alors là, le lieu d'implantation de l'église Saint-Michel reste encore assez problématique. Et je ne suis pas d'accord avec Donat, avec Galabert et avec tant d'autres qui ont écrit sur Saint-Antonin et qui assurent que l'église Saint-Michel était à l'emplacement de l'église actuelle de Saint-Antonin. Si j'en crois les informations que j'ai retirées, aussi bien des registres de délibération municipaux de Saint-Antonin que des archives départementales, l'église actuelle se trouve sur l'emplacement d'un temple tout neuf construit par les protestants en 1615, donc beaucoup après, et construction d'un temple qu'ils avaient construit sur l'emplacement de 5 maisons qu'ils avaient achetées à des particuliers. Ça, c'est le texte qui le dit. Si donc ce temple neuf avait été construit en cet endroit, à l'emplacement de l'église Saint-Michel, ils auraient dit qu'ils ont transformé l'église Saint-Michel. Or, tout le monde sait qu'il existe une place Saint-Michel à Saint-Antonin. La place Saint-Michel, c'est la place qui se trouve du côté du pont et sur laquelle donne le garage Citroën, propriété de M. Vessière. J'ai peut-être déjà dit que quand M. Benaïs, il y a bien longtemps de ça, ancien propriétaire de ce garage, fit creuser les fosses dans lesquelles devaient être ensevelies les citernes à essence, on exhuma des ossements humains, ce qui était la preuve que là se trouvait un lieu de sépulture, donc le cimetière ou les abords d'un lieu de culte, et je pense que l'église Saint-Michel se trouvait à l'emplacement du garage Citroën actuel. D'ailleurs, un autre fait le prouve, chaque fois qu'il y avait une inondation autrefois à Saint-Antonin, le chroniqueur mentionnait que l'eau était arrivée à tel endroit des marches de l'église Saint-Michel ou à tel gond de la porte. C'est donc qu'elle était tout de suite au débouché du pont. Ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs que cette église soit au débouché du pont. Donc, à mon sens, jusqu'à preuve contraire, je persiste à dire que l'église Saint-Michel, église paroissiale, devenue temple en 1562, se trouvait à l'emplacement du garage Vessière.
Oui. Donc, Monsieur Julien, vous nous disiez que Saint-Antonin était maintenant devenu une ville protestante.
C'est ça, oui, au pouvoir des protestants. Et la preuve, c'est que quand le 12 août 1562, l'armée du grand chef protestant Duras entrera à Saint-Antonin, elle y trouvera bon accueil, bon gîte et repos, et qu'elle y restera 15 jours. Cependant que Montluc, Bury et Théride, les chefs catholiques, entrent avec leur armée le 15 août à Caylus. Caylus qui accueille cette armée catholique avec la même faveur que les Saint-Antoninois ont reçu Duras. Donc voyez, en août 1562, à 12 kilomètres de distance, l'armée protestante de Duras à Saint-Antonin, l'armée catholique de Montluc à Caylus. Le 20 août, Montluc quitte Caylus. Il a autre chose à faire et des combats à mener plus loin, vers Agen. Alors, le 22, deux jours après, Duras se présente devant Caylus, qui lui refuse ouverture et vivre. C'en est trop. L'assaut est donné par Duras avec 50 hommes d'armes et c'est le sac de la ville de Caylus où furent tués 620 prêtres, car c'était cela à qui on en voulait. 620, ça fait 120, je vous précise. Les consuls de Caylus demanderont réparation de ce saccage au roi, observant que Duras et ses gens ont pris, pillé, ruiné et emporté tous les biens des suppliants, ensemble leurs bestiales et harnois, et les ont tellement pillés qu'ils en ont dépouillé les uns et ne leur ont laissé leur chemise, ont tué et massacré les autres, abattu, démoli et ruiné plusieurs églises et maisons. Il n'est pas douteux que Duras n'a pas été tendre à Caylus. Et voilà comment nos deux cités voisines, qui avaient jusque-là vécu en bonne intelligence et relation, vont devenir furieusement ennemies. L'une, Saint-Antonin, citadelle du mouvement protestant, où se réuniront les réformés du Rouergue. L'autre, Caylus, qui n'hésitera pas, sous Henri III, à passer aux extrémistes de la Ligue. Dès lors, et jusqu'à la promulgation de l'édit de Nantes, chacune des 8 guerres de religion va voir s'affronter cruellement calvinistes de Saint-Antonin et papistes de Caylus, au grand dommage, il faut bien le dire, des paysans des campagnes circonvoisines. De là naîtra une longue inimitié entre les deux cités.
Finalement, M. Julien, Saint-Antonin a eu beaucoup de chance d'être catholique au moment où Montluc est entré dans notre ville et d'être protestant au moment où Duras y est venu.
Oui, et là, peut-être ainsi, nos compatriotes ont peut-être ainsi évité un sac comparable à celui de Caylus. Encore bien, qu'il faille bien ne pas oublier qu'entre-temps, entre ces deux passages, et les protestants de Saint-Antonin s'étaient chargés de faire un mini-sac des possessions ecclésiastiques.
Monsieur Julien, c'est un peu choquant cette soudaine inimitié entre Caylus et Saint-Antonin que tout rapprochait jusqu'alors, comme est aussi choquant cette guerre civile. Comment peut-on expliquer qu'au nom de religions qui préconisent la bonté et la générosité se déchaînent tant de haine et de violence?
Comment l'expliquer? C'est inexplicable. Comment expliquer toutes les déviations des croyances, des idéologies et les plus humanitaires, les plus altruistes qui ensuite se permettent tous les crimes? Et je crois qu'il n'y a pas d'explication rationnelle à cela. Cette inimitié qui va naître entre les tenants de deux sectes religieuses croyant au même Dieu, en quelque sorte, cette inimitié, elle a été de tout temps, Elle est encore de nos jours et elle sera toujours. C'est une forme de la vie de l'humanité qui, à mon sens, ne peut progresser, tant pis si ce que je dis est trop fort, que par les soubresauts, les secousses, qu'on les appelle révolution, qu'on les appelle guerre civile, qu'on les appelle catharisme, qu'on les appelle protestantisme. C'est grâce justement à ces grands conflits d'idées que peut-être l'homme peut progresser dans sa destinée, aussi barbare puisse paraître cette appréciation.
Monsieur Julien, vous nous disiez que Saint-Antonin était devenu une ville protestante. Oui. Et c'est donc, je pense, un pouvoir protestant qui va se mettre en place.
Ah oui, effectivement. Maintenant, nous allons arriver bientôt à la Toussaint. Et c'est l'époque où officiellement se met en place le pouvoir. Et c'est ainsi que l'installation du pouvoir protestant à Saint-Antonin sera consacrée officiellement par la Grande Assemblée du 8 novembre 1562, convoquée par les nouveaux consuls, dont l'élection, curieusement, n'a pas été enregistrée. Vous voyez cette élection des nouveaux consuls qui aurait dû se faire le 31 octobre 1562, suivant les statuts et coutumes de la ville, n'a pas été fixée dans un procès verbal enregistré dans le registre des délibérations. La lacune dure encore.
Oui, parce que vous nous disiez que les consuls, les nouveaux consuls, étaient élus par les anciens consuls.
Voilà.
Mais les anciens consuls avaient donc quitté Saint-Antonin.
Voilà. Alors il est bien possible qu'il n'ait pas été légal, qu'on n'a pas pu retranscrire l'élection des nouveaux consuls pour la bonne raison que, sans doute, ils n'ont pas été élus légalement, c'est-à-dire intronisés par les anciens consuls. C'est un coup d'État, quoi. Et en général, les coups d'État ne laissent pas de traces. On ne s'amuse pas à en détailler les circonstances. Ce n'est donc que le 8 novembre que se tient cette grande assemblée, que les nouveaux consuls ont convoqué, et sans doute un peu aussi pour prendre contact avec la population. Et alors c'est là que nous nous apercevons que quelque chose a changé. Le procès verbal de cette réunion commence par la formule jusqu'alors jamais employée, au nom de Dieu. Et nous savons là, parce que les autres textes qui suivront commenceront tous par cette formule, que ce sont les protestants qui sont maîtres de la ville. Au nom de Dieu. Elle va devenir rituelle. Autre chose va changer. Les officiers municipaux sont nommés. Les consuls en place nomment les fameux gardes dont j'ai tant souvent parlé, le tabellion, le boursier, etc., etc. Et à chacun de ces personnages, c'est la coutume qui le veut, on fait prêter serment. Autrefois, et depuis des siècles, tout fonctionnaire municipal nouvellement nommé jurait sur les saints évangiles de bien et fidèlement remplir sa charge. Or, que voyons-nous ici? Que les officiers municipaux prêtent serment la main levée à Dieu. La main levée à Dieu, c'est un serment vers Dieu. On ne jure plus sur les saints évangiles. Les protestants, nous le savons, sont hostiles à ce qu'ils croient être de la superstition et du fétichisme. Les idoles, les reliques, les livres, tout ça ne compte pas, c'est la conscience seule du croyant qui importe. Conscience qui doit être en communication directe avec Dieu. C'est pourquoi, au nom de Dieu, la main levée à Dieu. Enfin, on fait préciser à chacun des consuls et des officiers municipaux, on lui fait jurer même de faire tout ce qui sera utile et nécessaire aux habitants, communautés et universalité de la dite ville et république. Voilà. Le mot est employé pour la première fois, inscrit sur les registres, la république. Encore qu'il faille se garder de lui donner son sens actuel, il n'est pas douteux que l'emploi de ce terme, brusquement, traduit un sentiment nouveau et la prise de conscience que la communauté de notre ville triomphant de ses oppresseurs, a conquis son indépendance. Certes, dans les mois qui vont suivre, les consuls, revenus à une plus juste appréciation des réalités, protesteront à tout moment de leur obéissance au roi, leur prince naturel, disent-ils. Mais, pour ajouter toujours et tout de suite, qu'ils n'ont en vue cette concession faite que la défense, conservation, prospérité de la ville et toujours et de la présente République. C'est quand même troublant, ça. Ainsi donc, le mouvement protestant du XVIe siècle est autant politique que religieux, et c'est pourquoi il a été et sera si durement réprimé par la monarchie catholique française, qui n'aura de cesse qu'il soit exterminé par le honteux traité de Fontainebleau, par lequel l'autocrate Louis XIV révoque l'édit de Nantes.